France Culture.
À voix nue. Aujourd'hui, Mario Vargas Llosa s'entretient avec Gérard de Cortanze. Quatrième entretien.
Mario Vargas Llosa, j'aimerais que l'on parle pour cet avant-dernier entretien, qu'on démarre cet avant-dernier entretien par la littérature péruvienne. On la connaît très mal en France. Quelques noms, Garcilaso de la Vega, Ricardo Palma, César Vallejo, José María Arguedas, Ciro Alegría. Dans quelle tradition vous situez-vous par rapport à cette littérature? Est-ce que vous avez des liens réels avec cette littérature péruvienne ou pas?
Je crois que j'ai des liens avec certains écrivains péruviens. Parmi ceux que vous avez nommés, probablement José María Arguedas est l'écrivain péruvien qui peut avoir eu plus d'influence sur moi. C'est un écrivain que j'ai lu dès que j'étais très jeune, avec beaucoup d'admiration. Et c'est un écrivain que j'ai relu et même enseigné aussi. Je crois qu'il était un grand écrivain. Mais j'admire pas seulement ses romans, mais je suis très intrigué par son cas, parce que c'est un cas à part dans la littérature péruvienne, et un cas très peu fréquent dans la littérature latino-américaine. José María Arguedas a eu ce que moi je n'ai eu pas. Une connaissance directe, pas seulement de la culture des langues espagnoles du Pérou, mais aussi de la culture quechua, de la culture andienne. Par des raisons, enfin, de famille, assez tragiques d'ailleurs, il a été élevé par les Indiens d'une communauté indigène du centre du Pérou. Et il a appris à parler, je crois, d'abord en quechua et seulement après en espagnol. Toute son enfance a été l'enfance d'un Indien. Il a eu ses rapports d'abord plus magiques et rationnels avec la nature. Il a connu la nature du dédain, disons, comme un Indien. Il a connu aussi la brutalité, la marginalité, l'exploitation qui fait partie de la condition d'un Indien, surtout à l'époque, n'est-ce pas? Et après, à son adolescence, il est redevenu un Péruvien des classes moyennes, urbain, un blanc, disons, entre guillemets. Et toute son œuvre est un effort pour exprimer cette double nature de la réalité péruvienne. Parfois il a réussi, d'autres fois moins, mais toute son œuvre est très intéressante parce qu'elle est vraiment érigée sur une problématique qui est d'une importance extraordinaire, et pas seulement pour le Pérou, mais pour tous les pays où il y a cette coexistence très difficile entre cultures, des langues et des niveaux historiques différents. Si je dois citer un écrivain péruvien qui pour moi était très très important, c'est José María Arguedas. Et bien sûr César Vallejo, qui est un poète extraordinaire, un grand poète de notre temps, et que j'ai découvert aussi quand j'étais à l'école et que j'ai lu avec beaucoup d'admiration.
Je souhaiterais que vous nous parliez de vos lectures, et notamment de deux d'entre elles, une concernant les romans de chevalerie, et l'autre, la littérature pornographique.
Je dirais plutôt la littérature érotique, parce que Quoique c'est un peu artificiel d'établir des différences, je crois qu'il y a quand même des différences entre une littérature érotique et une littérature pornographique. Je crois que la littérature pornographique est une façon, est une version plutôt dégradée, appauvrie, mécanisée de la littérature érotique qui, dans les meilleurs cas, est une littérature de création, n'est-ce pas? Exactement comme les autres. J'ai lu la littérature érotique quand j'ai travaillé dans la bibliothèque du Club National, d'un club de l'aristocratie, disons, péruvienne, aux années 50. Il y avait là une bibliothèque assez riche dans des livres érotiques. Et surtout, il y avait toute la collection dirigée par Guillaume Apollinaire, Les Maîtres de l'amour, qui avait été publié aux années, c'est pas exactement entre deux guerres, j'imagine. Hein. C'était une trentaine de volumes, au moins. Hein. Souvent avec des préfaces très drôles hein, d'Apollinaire, qui m'a fait découvrir la grande littérature érotique du XVIIIe siècle, par exemple. Sade, Restif de la Breton, John Cleland, Diderot. Et j'ai lu cette littérature avec beaucoup d'enthousiasme, fasciné par son caractère excessif, démesuré, et aussi par cette ambition qui est derrière les meilleurs livres érotiques de l'époque, hein, qui était l'ambition de réorganiser entièrement la société, de changer complètement la vie, en libérant les instincts, les passions, les désirs humains. Il y avait, j'y croyais, voir un esprit de rébellion si magnifique derrière certains de ces livres-là, que j'ai cru que l'érotisme pouvait être aussi un instrument extraordinaire de création. Après, j'ai découvert que, en fait, une littérature purement érotique est une littérature très limitée, hein, que si on réduit, n'est-ce pas, la description de la vie seulement à cette manifestation de ce qui est humain, la peinture est assez pauvre et assez répétitive et mécanique. Mais, en même temps, je crois que dans la description de la vie que donnent les romans, si on élimine ou si on ne donne pas au moins l'importance qu'il a dans la vie réelle à l'élément érotique, alors la vision est une vision très fausse et très insuffisante, n'est-ce pas? Et c'est que l'expérience humaine.
Vous avez écrit vous-même un livre érotique dans des conditions d'ailleurs un peu particulières. Les raisons pour lesquelles vous avez écrit ce...
C'est vrai, c'est... Oui. C'est probablement le seul livre expérimental hein, parmi tout ce que j'écris, L'éloge de la marâtre. C'est un livre qui est un livre érotique, mais qui est né comme un projet de faire de la littérature, de la peinture en même temps. Nous avions conçu avec un ami peintre, Fernando de Sisle, un peintre très connu en Amérique latine, un livre que j'aurais écrit et qu'il aurait peint. Hein.
Illustré.
Peint. Non, l'idée c'était peint. De travailler en même temps, du début, et...
D'avancer conjointement,
exactement,
ensemble.
Exactement,
oui,
en s'appuyant respectivement, n'est-ce pas, les peintres et l'écrivain pour produire ces livres qui seraient en même temps de la peinture et de la littérature. C'était très bien comme idée, mais on n'a pas pu travailler du tout hein, selon le plan. On se sentait intimidé, je crois, précisément parce que le travail littéraire et le travail créatif est un travail très solitaire. Hein. Alors finalement, on a désisté. Mais moi, j'ai gardé la tentation d'écrire une histoire dans laquelle la peinture aurait un rôle central. Alors c'est comme ça qu'est née l'éloge de la marâtre. J'avais aussi l'ambition, depuis longtemps, d'écrire une histoire érotique, mais en évitant la vulgarité, la banalité, qui est si fréquente dans la littérature soi-disant érotique. J'ai choisi un style précieux, quelque chose de très différent, non? Ce que j'ai fait dans tous mes livres. J'ai fait un style qui est très rechargé, où les mots sont choisis par des raisons plastiques, en même temps que par sa signification. J'ai joué avec la musique des mots. Et ça a été pour moi un divertissement extraordinaire.
Hein. Oui, c'est pour cela, parce que quand je parlais des circonstances particulières qui ont vu la naissance de ce livre, je pensais, c'est un livre que vous avez écrit parallèlement à votre candidature à la présidence.
Exactement.
Et quand même, on peut le dire, c'est-à-dire que d'un côté, vous aviez des discours d'hommes politiques, qui conduisent, il est vrai, à un appauvrissement du langage, puisqu'on répète toujours la même chose, et de plus en plus simplement, on simplifie à outrance, enfin, je crois.
Tout à fait.
Et d'un autre côté, ça c'est... au fond, on a l'impression que vous arriviez à vivre cette expérience en écrivant ce roman qui, lui, au contraire, était très recherché et complètement éloigné de l'appauvrissement du langage.
Tout à fait.
On imagine mal en France un candidat à la présidence de la République écrivant... un livre érotique parallèlement à son...
Attendez, il peut que dans 20 ou 30 ans, n'est-ce pas, apparaisse un chef-d'œuvre érotique d'un politicien aujourd'hui impensable de faire ça, non? Mais, vous savez, c'était pour moi très rafraîchissant, hein, pouvoir m'isoler et me submerger dans un monde de pure fantaisie, des préciosismes, des formes recherchées. C'était une compensation extraordinaire à un travail qui était, oui, parfois très mécanique et surtout à une utilisation du langage qui, comme vous l'avez dit, est tout à fait différent à celle qui est l'utilisation qu'il fait un écrivain quand écrit, n'est-ce pas? Pour un écrivain, le langage est quelque chose de... des précieux, quelque chose qu'on manie avec beaucoup de soin. Hein? Et on sait que tout dépend, n'est-ce pas, les succès ou la faillite de la manière comme on utilise les langages. Mais pour les politiciens, la plupart des fois, le langage est un instrument, n'est-ce pas, qu'on utilise d'une façon très mécanique, en simplifiant, en répétant, pour atteindre les grands nombres, n'est-ce pas? Et ça, pour un écrivain, est une espèce de sacrilège, n'est-ce pas?
Oui, c'est une question que j'avais envie de vous poser, ça, au fond. Vous, en tant qu'écrivain, comment avez-vous vécu cette expérience, non pas d'homme politique, mais par rapport au langage?
Avec beaucoup de difficultés, parce que, quoi que j'essayais, n'est-ce pas, de ne pas banaliser totalement ce que j'ai disais, non? Quand on doit parler 10 fois par jour, n'est-ce pas, dans des manifestations publiques, c'est très difficile, c'est-à-dire c'est impossible, n'est-ce pas, d'être originel et dire des choses nouvelles ou créatives, c'est pas possible, non? Alors vous devez répéter et vous tombez parfois dans les stéréotypes, dans les clichés, et en même temps tout ça... aller contre exactement ce que je voulais faire en politique. Mais j'ai vécu, n'est-ce pas, cette tension, hein, au niveau du langage, d'une façon que je crois seulement un écrivain peut vivre. Non?
J'aimerais qu'on revienne au roman de chevalerie qu'on a un petit peu oublié, notamment à Martorell, qui est pour vous un des grands romans, qui est, rappelons-le, le seul livre qui n'est pas brûlé par Don Quichotte, dans la bibliothèque.
Je crois que c'est un véritable chef-d'œuvre qui n'a pas été très connu parce que, comme c'était un livre écrit en catalan, son public était plus réduit, n'est-ce pas, que les livres de chevalerie écrits en espagnol ou en français. Mais c'est un grand livre que j'ai lu, je crois que par esprit de contradiction, parce qu'un professeur à l'université avait parlé avec beaucoup de mépris du genre chevaleresque, et ça m'avait donné l'envie de voir si les gens étaient si mauvais que mon professeur le disait. Et j'ai eu la chance de tomber sur Tirant l'eau blanche, sur le livre de Martorell, que j'ai lu avec une certaine difficulté, mais avec un énorme enthousiasme. Ce qui vous impressionne énormément en lisant Tirant l'eau blanche, c'est l'ambition totalisatrice, n'est-ce pas, du roman. C'est un roman qu'on ne peut pas classifier, parce que toutes les classifications sont bonnes, sont valables pour le roman. Si vous dites c'est un roman militaire, c'est un roman militaire, oui. C'est un roman de mœurs, c'est un roman de mœurs. C'est un roman religieux, c'est un roman religieux. C'est un roman d'aventure, oui, aussi, c'est un roman d'aventure. C'est un roman fantastique, parce qu'il y a aussi des épisodes fantastiques. Et c'est toutes ces choses-là, et quelque chose de plus, parce qu'en ajoutant toutes ces choses-là, il a quand même créé cette espèce d'équivalence à la complexité infinie de la vie, n'est-ce pas? Je crois que j'ai eu cette idée du roman comme un défi à la réalité totale en lisant certains livres de chevalerie comme Tirant l'eau blanche.
Vous connaissez sans doute cette phrase de Joyce parlant de son Finnegan's Wake et disant qu'il cherchait un lecteur idéal qui souffrirait d'une insomnie idéale. Vous pensez qu'il y a des romans qui créent leur propre lecteur?
Je crois que c'est le cas de tous les romans qui sont enfin des grands romans. Je crois qu'un grand roman, entre d'autres choses, parce que crée quelque chose nouvelle, quelque chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir de lecteur préparé pour cette expérience-là qui commence avec ce roman-là. Disons Proust, Joyce, Kafka, Faulkner, grands écrivains de notre siècle. Ils l'ont maintenant, oui, on les lit avec une certaine essence, mais quand ces livres sont apparus, il allait contre une tradition, il inaugurait, n'est-ce pas, des nouvelles manières de raconter, une nouvelle sensibilité littéraire. Alors il a fallu apprendre à lire ces livres-là, mais ces livres-là avaient une force, hein, pour encourager les lecteurs à faire face à les difficultés, et parfois les énormes difficultés de la lecture. Je pense surtout à Proust et Joyce.
Mais cette tentative totalisatrice dont vous parliez concernant Tirant l'eau blanche, on la retrouve dans Guerre et paix, bien entendu, mais n'est-ce pas aussi un peu, au fond, le projet de votre livre La guerre de la fin du monde?
Je crois que c'est le livre où j'ai essayé, plus que dans les autres romans que j'écris, c'est le roman total.
C'est le livre que vous préférez, je crois.
C'est-à-dire que c'est difficile, ces choix, non? Mais je crois qu'on préfère toujours ce qui vous a pris plus d'efforts et de temps. C'est le livre qui m'a coûté plus d'efforts, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que si je dois choisir un parmi mes livres, j'ai choisi La guerre de la fin du monde. Mais je crois que l'histoire, c'était une histoire propice pour essayer cette totalisation. Pour que l'histoire de cette guerre civile entre ces rebelles mystiques et ces armées républicaines soit compréhensible, il fallait quand même rapporter tous les contextes. Non? Et les contextes, c'était une société en mouvement. Il fallait passer du collective au particulier, de l'individu à des groupes humains, et aussi montrer toute la complexité de l'échelle sociale dans laquelle les drames des Canudos étaient vécus. Alors je crois que c'est le livre où je suis, enfin au moins où j'ai essayé d'approcher le plus les projets d'un roman total.
Les écrivains présents dans vos livres ne sont jamais présentés sous des jours très, très reluisants. Si on en passe quelques-uns en revue, dans l'éloge de la marâtre, le jeune Alberto, c'est un écrivain pornographe, prétentieux. Dans La tente et le scribouillard, le modèle de l'écrivain, c'est un feuilletoniste de radio. Dans La guerre de la fin du monde, le chroniqueur écrivain est un journaliste, je vous cite, myope. Dans Cathy et l'hippopotame, l'écrivain est un épigone de Victor Hugo. L'écrivain s'appelle parfois Marito Varguitas. Quel rôle assignez-vous aux romanciers dans le monde d'aujourd'hui? Et pourquoi cette image des romanciers dans vos livres?
Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains parmi mes personnages. Je crois que c'est assez normal. J'écris, comme je vous ai dit, à partir de mes expériences. Et l'expérience de l'écrivain est une expérience très importante dans ma vie. D'autre part, je ne suis pas d'accord avec la mythification de l'écrivain qui ont fait souvent les propres écrivains. Les écrivains ont créé, n'est-ce pas, un mythe, surtout dans le passé. Aujourd'hui, je crois que cela a changé. Mais dans le passé, les écrivains ont contribué beaucoup à cette idée de l'écrivain comme un être supérieur, qui, parce qu'il est écrivain, est en mesure de donner des conseils, des directives morales, intellectuelles, idéologiques, et même des conseils, surtout, au reste des êtres humains. Ça, c'est une vision très romantique de l'écrivain, mais qui est encore très vivant. Et surtout dans les pays du tiers-monde, où les écrivains ont un prestige qui déborde largement le prestige littéraire.
Mais vous ne pensez pas, malgré tout, qu'à une certaine époque, l'écrivain avait effectivement un rôle important, et c'était effectivement le porte-parole des opprimés, c'était lui qui pouvait parler, qui avait accès aux médias, aux journaux, à la radio, à la télévision, ça a un peu changé.
Cela est vrai, c'est-à-dire que l'écrivain, grâce à cette vision mythique, n'est-ce pas, du rôle de l'écrivain, a eu accès à des tribunes où très peu de gens pouvaient accéder. Cela ne veut pas dire que les écrivains ont toujours utilisé ces pouvoirs d'une façon positive, disons, pour la société. Au contraire, ce qui est très fréquent, surtout à l'époque contemporaine, c'est de voir les écrivains utilisant ces pouvoirs-là pour défendre les pires options. Il ne faut pas oublier que les écrivains ont été les promoteurs enthousiastes de toutes les idéologies totalitaires de notre temps, que les écrivains ont embelli, n'est-ce pas, rhétoriquement, pas seulement le communisme, le collectivisme, mais aussi le terrorisme, que les écrivains ont été aveuglés, n'est-ce pas, par l'idéologie, et qui ont été parfois des alliés très effectifs des dictateurs et des tyrans. Alors, je crois que c'est important, sans nier l'importance de la participation de l'écrivain dans la vie civique des nations, démystifier cette idée que l'écrivain, parce qu'il est écrivain, a quand même une lucidité garantie sur des sujets sociaux, moraux et même culturels.
Fuentes, lui, me disait, l'écrivain aujourd'hui n'est plus là que pour maintenir ouvertes les voies de la communication et du langage.
Je crois qu'il y a, écrivain et écrivain, n'est-ce pas? Il y a des écrivains qui veulent limiter leur rôle à la littérature, à l'écriture. C'est leur droit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas obliger un écrivain à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Non? Mais il y a des écrivains qui considèrent que participer, n'est-ce pas, à la discussion publique des grands sujets fait partie de son travail intellectuel.
Pour vous, quelle est la place de l'écrivain?
Oui, je crois que l'écrivain devrait surtout, dans des sociétés où les problèmes de base sont encore sans solution, où la discussion sur les modèles des sociétés est très vive, de participer en apportant ce qu'un écrivain peut apporter à ces genres de débats, qui est l'exercice de la critique, l'imagination et la clarté des langages. Ça, c'est très important parce que parfois, le langage est tellement pollué que la communication est presque impossible. Hein. Il faut rendre au langage cette transparence et communicabilité qui parfois a perdu. Par exemple, dans des sociétés qui ont été soumises longtemps à un contrôle dictatorial, non, un contrôle totalitaire ou autoritaire. Non. Dans ces sociétés-là, je crois que l'écrivain a un rôle qui est pas seulement littéraire, mais aussi public. Je crois qu'on ne doit pas exclure la possibilité qu'un écrivain, quand même, joue aussi un rôle sur les plans social et même politique.
À voix nue.
Vargas Llosa s'entretenait avec Gérard de Cortanze. Réalisation Janou Castel. Demain, dernier entretien.